8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. La sexualité est-elle obligatoire pour être heureux? Aux États-Unis, en France ou au Japon, on parle de récession sexuelle. Selon la dernière étude de l'IFOP, les Français, en couple comme célibataires, n'ont jamais fait aussi peu l'amour depuis 50 ans. 12% se considèrent comme asexuels et ne ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle. Chez les 18-24 ans, un jeune 2 sur 2 n'a eu aucun rapport sexuel dans l'année. Alors comment expliquer la baisse de libido dans la chambre à coucher, abstinence choisie, concurrence des écrans, influence du porno, charge mentale, quelles que soient les raisons, peut-on parler de sobriété sexuelle comme la fin d'un tabou? On en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Anna Mangeau.
Bonjour.
Vous vous dites militante asexuelle et écolo, entrepreneuse et autrice du livre Asexuelle, itinéraire intime et bouleversant d'une femme qui aime sans faire l'amour aux éditions Larousse. Et cette femme, bah, c'est vous. C'est un journal intime pour libérer la parole, vous nous direz en quoi il y a bien des tabous sur la notion de non-désir sexuel, hein, tout en étant malgré tout amoureuse. Bonjour Florentine Dolnoy-Wang.
Bonjour.
Vous êtes thérapeute de couple, autrice du podcast L'espace du couple et des livres Les clés de l'intelligence érotique, Les clés de l'intelligence amoureuse. Ça fait beaucoup de clés. Hein. Il va falloir nous en donner. Hein. Chez Larousse, et vous nous direz d'ailleurs ce que vous entendez par intelligence érotique. En fin d'émission, à tout autre sujet, nous irons dans les Alpes françaises à la rencontre de Jean-Baptiste. Figurez-vous que c'est le seul moniteur de ski noir de tout le domaine. Ça paraît à peine croyable. Portrait signé Alice Milo. Et vous, bien sûr, qui nous écoutez, même si c'est un sujet intime, racontez-nous quel est votre rapport à la sexualité, vous soyez célibataire ou en couple. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Bonjour les voisins, j'espère que vous allez bien. Pour moi, la sexualité n'est pas obligatoire pour être heureux en couple. Le sexe, pour moi, c'est comme l'argent. Ils ne font pas le bonheur, mais ils contribuent au bonheur dans un couple. Pour moi, le bonheur dans un couple, c'est ces petites choses, la tendresse, le respect, l'écoute, la communication, les petits gestes d'amour, quoi. Les cafés du bon matin, avoir l'habitude de préparer de bons plats pour son chéri. C'est l'ensemble de toutes ces choses qui font le bonheur dans un couple.
Merci beaucoup, Djegui de Dakar, pour votre message. Hein, les petits gestes d'amour, la tendresse, les plats cuisinés, plus important que la sexualité. Bon, on reste à savoir qui cuisine, même si on a peut-être une petite idée. Alors, je le disais, 12% des Français se considèrent comme asexuels. Je commence par vous, Anna Mangeau. Ce mot asexualité, c'est très récent. C'est assez mystérieux, ça peut être fantasmé aussi. C'est quoi votre définition à vous de la sexualité? Parce qu'il y en a plusieurs, hein, en fait. Hein.
Alors, il y en a plusieurs et en même temps, il y en a déjà une un peu universelle qu'on peut donner, à savoir que la sexualité est bien une orientation sexuelle, comme toutes celles qu'on connaît et dont on a déjà entendu parler, la bisexualité, l'homosexualité, l'hétérosexualité, évidemment, à la différence que la sexuelle ne ressent d'attirance sexuelle pour personne ou dans des circonstances très particulière.
Mais ça reste une orientation.
C'est une orientation absolument. Après, j'aime le rappeler et le dire, on manque vraiment d'études, de chiffres, de gens qui s'y sont intéressés. Donc pour l'instant, les définitions sont faites par nos communautés, par les gens qui se sentent concernés. Mais il est important évidemment de rappeler que c'est une orientation.
Vous dites communauté, hein.
Ouais.
Vous, en tant qu'asexuel, qu'est-ce que vous ne ressentez pas ou qu'est-ce que vous ressentez en fait?
Alors, moi je suis vraiment à l'extrême du pôle, puisque je ne ressens aucun désir, aucune attirance et je n'ai aucune libido, quelles que soient les circonstances. Après, qu'est-ce que je ressens? Mon corps fonctionne, si jamais je le mettais en éveil, en activité, mais comme certains qui n'aiment pas les chatouilles, ça ne me plaît pas forcément.
Et vous dites, moi j'ai découvert ça à l'âge de 21 ans, hein, c'est ça?
Absolument.
Donc jeune, il n'y avait pas de mots pour le dire, pour savoir ce que vous ressentiez ou vous ne ressentiez pas. Et jusqu'à l'âge de 21 ans, quoi, vous avez l'impression d'être étrange, pas normal? On en parle, on n'en parle pas?
Alors, moi, j'en parlais pas beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai eu ma meilleure amie d'époque au téléphone il y a quelques jours qui me disait qu'en fait, non, j'en parlais pas. Et même je faisais plus que la moyenne pour paraître dans un homme. J'en parlais plus que tout le monde. Je traînais beaucoup avec des garçons pour justement refouler, être dans le déni de ce que j'étais. Et après, je me sentais évidemment très mal dans l'intimité parce qu'en définitive, je me considérais comme un humain dysfonctionnant. Je courais après un désir que je ne connaissais pas et que je n'arrivais pas à atteindre, allant de garçon en garçon, essayant parfois même avec des filles, mais sans trouver. Et pourtant, je tombais amoureuse, j'étais avec des gens très attirants, mais sans trouver ce désir dont j'entendais parler absolument partout.
Ouais, et ce qui est incroyable, c'est que l'Association américaine de psychiatrie, hein, c'est ce que j'ai vu, considérait la sexualité comme une pathologie jusqu'en 2013. C'est pas si vieux que ça. Florentine Tonnois-Wang, vous qui recevez essentiellement des couples, est-ce que vous recevez des couples qui se disent asexuels? Est-ce que c'est un mot qui est rentré dans le vocabulaire ou franchement pas?
Plutôt pas, parce que ce sont d'autres générations, mais c'est vrai que parfois au cours du travail, sur des problèmes, et je mets des guillemets à problèmes de désir, on peut poser ce mot-là, à un moment de réaliser, comme on peut réaliser en milieu de vie qu'on est bisexuel, et ben on peut réaliser en milieu de vie qu'on est asexuel. Et ça demande évidemment après des ajustements. Et parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne pense pas que les couples qui ne font plus l'amour ne sont plus des merveilleux couples. Je pense qu'il peut y avoir une énorme vitalité, une énorme complicité, une énorme intimité. Et c'est juste que parfois, c'est une souffrance pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. Et c'est là qu'on va faire quelque chose. Mais...
Oui, parce que l'un peut éprouver encore du désir pour l'autre et l'autre plus du tout, en fait.
Hein. Exactement. Mmh. Exactement.
Et ça, ça se travaille. Ou en tout cas, on en parle.
Et ça, on en parle et ça se travaille parce qu'il y a une question fondamentale quand il y a un trouble du désir. Vous ne me voyez pas parce que je suis à l'antenne, mais je mets des guillemets à chaque fois sur ces mots de trouble. La question, c'est se poser, est-ce que je n'ai pas de désir ou est-ce que je n'ai pas de désir pour la façon dont nous faisons l'amour depuis quelque temps? Les problèmes de désir ne sont pas toujours ce qu'on pense.
Oui, c'est ça. Ouais. Et vous, c'est aussi pour ça, Anna Mangeau, vous avez écrit ce livre en disant « Voilà, je peux être asexuelle, mais tout en étant amoureuse ».
Ouais, et même justement, c'est ce que disait du coup l'auditeur qu'on a entendu, c'est essayer de démontrer par A plus B et par des exemples qui se multiplient qu'en fait, le bonheur dans le couple, en fait, ce besoin sexuel, ce manque qu'on pourrait s'imaginer, vient s'y substituer des millions d'attentions, de moments de tendresse, d'intimité, qui en définitive prend toute cette place-là qu'on pourrait s'imaginer manquer. Et que moi, en tout cas, le couple, parce que je suis en couple avec un garçon hétéro depuis bientôt 6 ans.
Il est asexuel ou pas?
Absolument pas. Mmh. Et on est très, très heureux parce que justement, on a su remplacer. La place qui était censée prendre le sexe par des caresses, des câlins, des attentions, des repas. Effectivement, vous demandiez qui faisait à manger. Et bah, ensemble, on fait à manger en s'amusant, en se bagarrant un petit peu. Enfin, il n'y a pas une seconde qu'on ne s'autorise pas à être proche.
Et il n'y a pas de manque pour lui?
Alors forcément, il faut aussi le reconnaître, il ne faut pas se voiler la face. Il y a une forme de frustration. Et c'est justement là où ça se passe bien. C'est parce que je suis à l'écoute de cette frustration. Jamais de la vie, je me forcerai pour y répondre. Par contre, il a tout un espace d'expression pour cette frustration où il peut m'en parler, je l'écoute, on en discute ensemble. On essaye de combler ces moments avec d'autres choses. On essaye de voir qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir à la place de ce que je suis incapable de lui donner. Et voilà, je pense que c'est un peu une des clés, vous me direz Florentine ce que vous en pensez, mais que justement tous ces manques-là peuvent rapidement être un espace d'échange et ouvrent la porte en fait à une proximité qu'on n'aurait pas si on n'en discutait pas.
Ça fait partie des clés?
Absolument, absolument. Mmh. J'imagine que vous avez beaucoup plus d'intimité que beaucoup, beaucoup, beaucoup des couples.
Bah, je ne suis pas dans le lit des autres et dans leur maison, mais en tout cas on a une très belle intimité, oui.
Mais l'intimité n'est pas que dans le lien. Pour moi, l'intimité, c'est la capacité à vraiment se dire le ténu, la dentelle de ce que nous sommes, de nos émotions, de nos manques, de nos rêves. Et au-delà de l'absence de désir dans un couple, je pense que ce qui est à surveiller, c'est l'absence de corporalité.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il y a 1000 milliards de façons de montrer l'amour avec son corps. Et la sexualité pénétrative en est juste un échantillon.
C'est ça que vous appelez l'intelligence érotique ?
L'intelligence érotique, pour moi, c'est l'intelligence de revenir à une sexualité à soi, à une corporalité à soi, qui peut être de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Vous êtes assez, j'allais dire activiste, en tout cas très militante, notamment sur les réseaux, TikTok, Insta. Vous avez l'impression que, notamment chez les plus jeunes, qu'il y a une parole qui se libère, qu'on en fait moins, puisqu'à un moment donné, on parlait de la génération no sex, low sex, asexué. Enfin, on a l'impression aussi que c'était quand même pas mal d'expressions de sociologues, en fait, hein, ou de médias.
Alors, une parole qui se libère, je ne saurais pas trop dire. Par contre, ce qu'il y a, c'est un accès à la représentation qui se libère. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus accès à ce mot et peuvent donc se l'approprier, ce qui peut être hyper salvateur et libérateur pour les gens. Par contre, la personne qui ne couche pas, qui n'aime pas coucher ou qui ne veut pas coucher, donc l'abstinence, la sexualité ou des troubles du désir liés à quoi que ce soit, sont encore vues comme quelque chose d'assez misérable.
Misérable.
Et le sujet est toujours d'ailleurs traité, comme on peut le voir dans des fictions, par exemple les asexuels sont toujours traités d'un point de vue misérabiliste, comme quelque chose d'un peu triste, d'un peu vu sous l'œil de celui qui a du désir et qui se dit « Oh ben mince, c'est pas ce qui rate ». Donc, même si on voudrait se clamer asexuel et l'assumer, on est bloqué par deux choses, qui est d'une part la honte d'être du côté de ceux qui nous disent des losers, et d'une autre, le déni, parce qu'on ne veut pas être de ceux qui sont des losers.
Le fameux miroir. Les losers, en amour, en sexualité, finalement, on est toujours dans cette course des normes, soi-disant, de la sexualité performante.
C'est ça. J'imagine même qu'on peut soupçonner que c'est un trauma qui est à l'origine de ça.
Toujours.
Et non pas une orientation en soi.
Toujours, mais parce que les traumas et l'orientation se mélangent. Si on prend mon parcours, qui est partagé par des milliers de personnes, puisque je reçois, moi, des messages quotidiennement, quand on ne sait pas ce qu'est la sexualité, on ne sait pas ce qu'est... Alors, la sexualité, à l'apostrophe, mais aussi la plus loin sexualité. On va chercher à la vivre comme tout le monde. Et moi, par exemple, je me suis retrouvée à 14 ans à avoir des rapports non consentis, mais en me disant en définitive, peut-être que c'est comme ça pour tout le monde. Parce que, en plus, bon, si on mélange ça au porno, la représentation qu'on a des femmes qui vivent le sexe, bon voilà, on ne sait pas trop à quoi c'est censé ressembler, souvent on en crie. Et donc, je me suis retrouvée à avoir des rapports, à être violée pendant plusieurs mois, puis avoir des rapports forcés sur rapports forcés, ce qui fait que mon corps, ça a engendré des traumatismes qui ont compliqué les choses. Et donc forcément, après vient le périple de différencier est-ce que je suis asexuelle ou est-ce que je suis traumatisée, est-ce que c'est inné ou est-ce que je suis réparable.
Réparable, hein.
Réparable, ouais. C'est,
le mot est fort,
j'utilise des mots forts parce que c'est des mots qui m'ont vraiment suivi toute ma vie. Un humain mal fonctionnant, un humain réparable, les losers, mot un peu débile, mais qui marche très bien, les losers face aux winners. Un humain réparable.
Et on parlera tout à l'heure aussi, forcément, des jeunes et de la baisse de libido chez les plus jeunes, avec forcément les écrans, pas que chez les jeunes d'ailleurs, et l'influence du porno en ligne. On écoute Jalice avec ce titre Bad Barbie sur RFI. Chata, chata. Sexy girl, kabakito, Chata chata, fais tes walk, ni traka traka, gon salut, t'en dis dans quelle mitraillette, aka aka, combien bad girl d'après, yo, mais aïe, yo, paka paka, manka, coûte d'un sol depuis à l'époque, chaba chaba. Princesse, shooty, ou veste, cousine, ou la capale en domaine, mais est ou clean, en cas manger ça des terres, qu'on sait, c'est pudding, essayez test, mais c'est concis ou test, poutine, bad baby, moi, et puis combien cardi, money pour le bad DJ, yari, mettez sa magie, ou filmez mon kaba qui top, mettez en les IG, veillez non, mon poumon pas bail. Sexy girl ka back it up, bad man ka bossy top. DJ ka drive up, platine l'en con pilote. Ballon man ka baili, ballon man ka baili. Mais c'est qu'à tout dit en bas on wind up. Sexy girl ka back it up, bad man ka bossy top. DJ ka drive up, platine l'en con pilote. Ballon man ka baili, ballon man ka baili. Mais c'est qu'à tout dit en bas on wind up. Chata chata, make money, give me plata plata, look at me. Queen mada mada, I'm bad bada bada, I'm mad mada mada. Jalice ton da 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 da. L'année combien t'y bonbons qu'à back it up? L'année combien t'y bonbons qu'à back it up? L'année combien t'y bonbons? L'année combien t'y bonbons? L'année combien t'y bonbons qu'à back it up? Sexy girl qu'à back it up, bad man qu'à bossy top. DJ qu'à drive up, platine l'encon pilote, ballon.
dans mon cabaye, balle dans mon cabaye, mais c'est qu'à tout dit en bas, on wine up. Sexy girl, kaba qui top, bad man, kaba si top. TJ, ka drive up, platine l'en con pilote. Balle dans mon cabaye, balle dans mon cabaye, mais c'est qu'à tout dit en bas, on wine up.
Chata, chata, feste, walk, any track, a track, a track. Combien pas de gars, t'as pris, mais aïe, yo, pas cap, pas cap.
Jalice avec Bad Barbie, un titre à renouveler sur, à retrouver sur la playlist de RFI. Dans 8 milliards de voisins et de voisines, on parle de la sexualité. Est-elle forcément obligatoire pour être heureux? Les Français en couple comme célibataires n'ont jamais fait aussi peu l'amour depuis 50 ans. C'est le résultat d'une récente enquête. On en parle avec nos invités Anna Mangeau, militante asexuelle, et Florentine Daulnois-Wang, thérapeute de couple. On attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 50. 41. Et nous sommes en ligne avec Senan Fleur de Franceville au Gabon. Bonjour Senan Fleur.
Bonjour Madame Garcia, bonjour 8 milliards de voisins.
Merci d'être avec nous. Alors Senan Fleur, je crois savoir que vous êtes en couple depuis 6 ans. Vous êtes chef pâtissier. Alors forcément, chef pâtissier, c'est un métier très très prenant. Est-ce que vous avez un petit peu de temps pour vous et votre épouse? Racontez-nous.
Bon, ok. Comme je racontais tantôt, oui, ça fait 6 ans, effectivement. Mais nous avons des horaires de programme qui ne nous permettent pas vraiment de s'épanouir vraiment sexuellement. Pourquoi? Parce que ma madame, elle est institutrice. Oui. Donc la journée, du coup, elle est au boulot, elle est à l'école. Et moi, par contre, le soir, je suis je monte à la pâtisserie. Donc il faut travailler la nuit. Parfois, oui, c'est 1 heure, parfois c'est 2 heures. Donc nos programmes ne nous permettent pas, parce que non seulement que nos programmes ne nous permettent pas, c'est que les week-ends où elle a un peu de temps pour se reposer ou bien elle peut m'accorder un peu de temps, c'est les week-ends. Moi, la pâtisserie, ça demande plus. Parce que les week-ends, on a les commandes, on a les mariages. Donc du coup, nous avons du mal à trouver le rythme qu'il nous faut. Parce que la nuit, nous avons un bébé de 16 mois qui est venu s'ajouter à la famille. Donc lui, il ne dort pas. Il faut veiller à ce qu'il dorme d'abord. Et quand il dort, nous tous, on est déjà épuisés. Et puis, alors, chacun est dans son coin parce qu'il n'y a plus la force pour faire quoi que ce soit. Donc du coup, on peut dire que cette intimité, moi, sincèrement, ça me manque. Et puis ça la manque aussi. Mais vu les réalités... notre quotidien, on a du mal à trouver vraiment comment s'adapter pour pouvoir s'épanouir.
Ouais,
parce que actuellement, la vie aussi est tellement chère qu'il faut travailler beaucoup pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc du coup, moi non seulement je suis pâtissier, je travaille en tant qu'employé, mais je travaille aussi à mon compte personnel. Donc du coup, vous imaginez le rythme du quotidien, c'est un peu fou.
Ouais.
Donc du coup...
Ce Nanfleur, en plus, non mais on comprend, là, c'est ce qu'on appelle la charge mentale, hein, double boulot, triple boulot. Mais vous nous aviez confié aussi que votre femme, elle était aussi beaucoup sur son portable, non?
Oui, là, oui, c'est son péché un peu mignon, elle aime beaucoup les écrans. Ça veut dire que quand elle a un petit bout de temps où on peut profiter de ce temps, et c'est là où elle est distraite par le portable, puis ses séries préférées, même si parfois elle est somnole devant la télé.
Oui.
Et moi, ça me fait pitié. Je dis, ben, va dormir, au moins va te reposer, mais elle est là devant la télé ou parfois scotchée sur l'écran. Moi, parfois, je lui envoie des flashs pour qu'elle puisse comprendre que, bon, là, j'ai besoin un peu de toi. Mais bon... Le portable aussi, ça fait partie de la vie. Elle a envie aussi de voir les actualités aussi, ses séries préférées. Donc du coup, et gérer ses plaisirs personnels, ses passions, et pour trouver aussi le timing de temps. Parfois, par exemple, elle peut me dire, parfois j'ai envie de la toucher, elle peut me dire, chérie, je suis un peu fatiguée le matin. Alors que le matin, moi, je peux partir déjà à 5h, 6h30, je dois démarrer la voiture et partir au boulot. Parce que je n'ai pas un programme fixe, je suis un responsable dans la pâtisserie. Donc, je m'adapte selon la demande.
Senan Fleur, on va donner la parole à notre thérapeute de couple qui rencontre beaucoup, hein, des couples, Florentine Daulnois-Wang. Ben voilà aussi le temps. Bon, alors là, il y a le travail, hein, la charge mentale, le travail. Mais le temps passé sur les écrans, les smartphones, ce temps qui concurrence le temps sexuel aussi, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller à notre auditeur?
Plusieurs petits conseils. Ça serait effectivement de décider peut-être d'une journée par semaine ou plus pendant laquelle vous n'êtes jamais sur vos écrans dans la chambre. Comme de sanctuariser la chambre, sinon pas tous les jours, au moins de temps en temps dire on se fait une journée, une soirée sans écran du tout dans la chambre.
Comme les enfants.
Comme les enfants, exactement. Pour avoir du temps disponible l'un pour l'autre. Ce que j'entends pour vous, c'est que ce n'est pas forcément un problème de désir, c'est un problème d'énergie. Mmh. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire l'amour. Deux autres petits conseils, ça serait peut-être de prendre des rendez-vous. Je sais que vous avez un bébé, je sais que vous avez des boulots qui vous prennent énormément, etc. Mais juste prenez votre agenda et regardez-le avec gourmandise en disant « Et peut-être regarde le temps, peut-être on pourrait passer notre bébé à la maman, la sœur, la voisine, etc. » Et se retrouver, c'est très, ça peut être délicieux vraiment de se donner rendez-vous pour faire l'amour. Et un autre conseil, que les rythmes de vie de fou ne vous empêchent pas toute la corporalité. S'il n'y a pas le temps et l'énergie, l'espace possible pour de la sexualité, de quand même montrer votre amour avec vos corps de toutes les autres façons qui existent.
Ben voilà quelques petits conseils, ça n'enfleure, si ça vous va.
Oui, je disais tantôt, c'est pas... Oui, il y a un problème d'énergie, mais il n'y a pas seulement le problème d'énergie, il y a un peu aussi, le désir, ça baisse, parce que, vous voyez, si la tête, elle n'est pas à l'aise, on ne peut pas penser à ça. C'est-à-dire, les défis quotidiens font que, on va dire que aussi le désir baisse. Parce qu'il arrive des moments, elle me dit que ben on dort déjà comme si on était des frères et des sœurs. Mmh. Parce qu'il arrive que comme moi j'ai des préoccupations aussi du boulot et autres, je n'ai pas le temps de ça. Au fait, on peut dire que le rythme aussi ça a baissé parce que vu les préoccupations, il y a un problème d'énergie, ok, oui. Mais il y a aussi le problème du désir. Parce que la tête est occupée à penser à comment finir les charges, la fin du mois, comment finir, on va dire quoi, un rendez-vous de travail qu'on a pris, un engagement, tout ça. Donc, ce qui fait que, ben, parfois aussi, il n'y a pas la place à la sexualité.
C'est ça, et au désir. Ouais.
Mais ce que je vous souhaite, du coup, c'est de trouver une façon qui va vous détendre et qui va vous rendre présent, même pas forcément pour de la sexualité, mais juste présent pour la vie, pour l'autre, pour être ensemble. Peut-être en faisant soit un peu de sport parce que ça décharge et que ça rend présent, peut-être d'écouter de la musique ou de méditer ou de quand vous rentrez du boulot ou de trouver des clés pour vous, des solutions qui pourraient libérer un peu votre tête pour vivre autre chose que cette charge mentale professionnelle.
Bon, en tout cas, merci pour votre témoignage, Chenan Fleur, et puis bon courage, hein, et voilà, trouvez le temps du temps,
merci,
c'est sûr.
Madame,
merci à vous, bonne journée du côté de Franceville. Au Gabon, on parle du temps des écrans, ça joue forcément. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas aussi, je ne sais pas, dans ce sondage-là hein, de l'IFOP, toute génération confondue, 31% des Français ont déjà évité un rapport sexuel pour voir une série ou jouer aux jeux vidéo. Et c'est honnêtement à parité chez les hommes et chez les femmes. Est-ce que ça veut dire aussi quelque part, on est aussi dans un plaisir qui serait peut-être plus solitaire, plus individuel que partagé, Anna Mangeau?
Alors, moi j'ai un avis qui est, enfin, c'est pas que c'est tranché là-dessus, mais parce que je fais, voilà, j'ai 25 ans, je fais aussi partie vraiment de cette génération qu'on décrit beaucoup pour sa présence et sur les réseaux sociaux, en tout cas son activité sur les écrans qui prend beaucoup de place. Je pense honnêtement qu'il y a aussi quelque chose de très global d'un rapport sexuel qui aurait peut-être baissé en qualité et qu'en définitive, oui, regarder une série, jouer aux jeux vidéo, bah, c'est une source de satisfaction qui est devenue plus grande que celle d'avoir un rapport sexuel bien trop souvent bâclé. Quand je dis ça, je ne parle pas de mon cas encore une fois parce que je suis un peu à part, mais le fait est que quand on est asexuel, en tout cas moi, j'ai passé tellement de temps à observer les autres pour essayer de comprendre ce qui les animait et essayer d'être comme eux qu'en définitive, je me suis fait spectatrice de tout ça. J'ai recueilli les histoires de mes amis, les histoires de mes proches. Je les ai analysées pour essayer de me projeter dessus. Et donc, ça fait que j'ai une opinion. Je me permets de le préciser parce que souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là?
Elle non, pas du tout.
Non, pas vous, mais c'est une pensée qui peut venir et un retour qu'on m'a fait. Et donc voilà, je pense que après les écrans, typiquement avec mon compagnon, il faut aussi entendre que ça peut être quelque chose qui rassemble. Nous, on joue aux jeux vidéo ensemble, comme on pourrait faire un jeu de société ou quoi que ce soit, et on adore ça et on en rigole beaucoup et c'est franchement bien.
Autre forme de plaisir, vous le voyez ou pas dans les couples que vous rencontrez, des couples qui sont ensemble depuis très très longtemps, voilà, vous parlez de ce temps passé devant les écrans ou pas ? Est-ce que c'est un sujet qui revient ?
Tout à fait d'accord avec Anna. C'est le point de l'intelligence érotique. Vous me demandiez ce qu'était l'intelligence érotique tout à l'heure. C'était aussi comprendre que le corps de l'autre est un mystère absolument incroyable et qu'on a beaucoup de choses à s'apprendre l'un l'autre, à se donner la notice et à travailler presque ensemble au long cours pour que la sexualité soit une fête pour les deux. Et sinon, ça fait, Netflix fait largement concurrence.
Netflix fait largement concurrence. Donc,
j'aime bien cette phrase.
Oui, c'est ça. On va la garder, celle-ci. Allez, on va du côté de la Centrafrique.
8 milliards de voisins sur WhatsApp. 33-7, 64-45, 51-41.
Et c'est Freud qui nous appelle de Bangui en Centrafrique. Bonjour Freud.
Bonjour Laurence et bonjour à tous vos invités.
Merci d'être avec nous. Alors Freud, je crois savoir que vous avez une petite copine qui est partie faire ses études à Douala au Cameroun il y a déjà 9 mois. L'amour à distance, pour vous, c'est pas compliqué à vivre ?
Non, je trouve pas. C'est pas vraiment important. Bien qu'au début, c'était pas facile. Mais avec le temps, vu tous ces moments que nous avions passés, et j'ai su vraiment gérer la distance qui est entre nous, et elle, de son côté, elle a su vraiment gérer. Alors, pour cette émission, Laurence, j'aimerais aussi présenter mes avis.
Allez-y.
Parce qu'aujourd'hui, la sexualité, comme indique la thématique, n'est pas une obligation ni un impératif enfin de rendre heureux. Alors, il est impératif de fonder certaines choses, c'est-à-dire peut-être le respect, la compréhension, la fidélité. Et ce sont ces choses qui pourront nous épanouir et se feront déboucher sur la sexualité qui viendra souder et rapprocher plus la relation. Car si aujourd'hui, beaucoup de couples mariés ou non se plaignent à cause d'une vie de sexualité non régulière, c'est simplement parce que quelque part dans leur début, ces couples n'ont pas pu bien fonder la base de leur union. Et c'est très important, je trouve.
Ouais. Non, vous entendez bien, Bangui. Alors, Bangui, Freud. Mais je crois savoir que ça va être votre future fiancée, votre copine, non ?
Oui, tout à fait. Ce sera elle qui sera ma future épouse, je pense bien.
Mais là, elle doit rentrer de Douala dans 3 ans, c'est ça ? Vous avez décidé d'attendre. Pour l'instant, vous n'avez pas eu de relation sexuelle, hein, c'est ça ?
Ah oui, tout à fait. Puisque avant son départ, on s'est réfléchi, on a parlé beaucoup plus sur nos projets.
Oui.
Et donc aujourd'hui, c'est vrai, elle est partie soit pour finir en licence, soit en master. Alors, je l'ai promis que je vais l'attendre, quoi qu'il arrive.
Waouh.
Et voilà, c'est vrai que la distance peut parfois nous dérouter de nos objectifs, mais cela ne va pas justement m'empêcher, ni l'empêcher de là où elle est. Voilà, donc...
Est-ce que vous avez l'impression, vous êtes jeune, vous avez quel âge, Freud ?
Bon, j'avais 9 ans.
Ouais.
J'avais 9 ans, Laurent.
Oui, vous avez l'impression d'être un cas un petit peu à part, isolé dans votre amour, quand vous en parlez à vos amis en disant, bah voilà, je l'attends ou pas.
Ah oui, comme je vous ai dit, au fait, entre moi et ma partenaire, nous ne priorisons pas la sexualité, au fait. Voilà, donc tout ce que nous aimerons faire, c'est au fait d'être épanoui. Et lorsque le rapport, la sexualité viendra, c'est juste pour nous souder encore un peu plus.
Ouais.
Donc, nous ne priorisons pas la sexualité.
On a bien compris.
Et au fait, ça.
Ouais. On va faire rebondir nos invités. Anna Mangeau, je voyais, vous l'écoutiez, Freud, en opinant de la tête, en disant, bah voilà, du moment qu'on en parle entre nous aussi.
Ouais, et puis en fait, ça touche vraiment ce que. Enfin, j'aime beaucoup entendre ce genre de témoignages, parce qu'évidemment, je partage ça. La question de qu'est-ce qu'on priorise dans un couple, et cette question dépend d'ailleurs tout à fait d'un couple à l'autre. J'entends parfaitement que pour des gens, le sexe soit une priorité, mais Freud a parlé des bases d'un couple qui permettent l'épanouissement au long terme. Mmh. Je trouve, et évidemment, pour moi, en tout cas, quand je parle de mon couple, ma priorité, bien avant une entente sexuelle, ce serait de partager des opinions, de partager des moments, de s'entendre, d'avoir les mêmes projets de vie. Et si il y a des choses qui diffèrent, de travailler pour qu'on puisse s'accorder sur quelque chose de commun. Et je trouve votre histoire, Fred, je la trouve hyper jolie. Effectivement, je souriais beaucoup parce que j'aime entendre des hommes comme des femmes parler de leur amant et amoureux de cette façon, avec autant de respect et d'affection.
Bah merci beaucoup en tout cas Freud pour votre témoignage et belle journée du côté de Bangui en Centrafrique. Merci à vous. Parlons des plus jeunes aussi. Je le disais là, selon ce dernier sondage, un jeune Français de 18-24 ans sur deux n'a pas eu de rapport sexuel dans l'année. Alors est-ce que c'est abstinence choisie ou subie? Mais forcément on ne peut pas ne pas parler de l'influence aussi du porno en ligne, qui pourrait aussi créer beaucoup de fantasmes, d'idéalisation du sexe opposé, de la peur aussi, ou l'anxiété de se dire, est-ce que je vais être à la hauteur dans la vraie vie? Florentine Dolnois, ou même si vous recevez plutôt des couples, hein, et pas forcément des jeunes.
Hein. Mais même sur les couples déjà qui ont 35-40 ans, je vois les effets de la pornographie sur le désir. La pornographie tue le désir, elle tue l'imaginaire, elle ramène à la pulsion, à la friction. Et puis performance, comparaison, un faux idéal comme ça qui émerge et qui rend tout le monde fou en fait. Mmh. Parce que du point de vue de la secousse orgasmique, c'est radical. Mmh. Et ensuite, trouver ça dans la relation, avec le lot d'émotions, de connexions, c'est deux mondes complètement différents. Mmh.
Quelque part, Anna Manjo, je disais, vous vous dites militante, hein, mmh. asexuelle. Donc militante, il y a une notion de milité. Mmh. C'est politique aussi. Contre quoi, contre qui? Contre, encore une fois, ces notions de normes ou de performance sexuelle, véhiculées quoi? Par les applis de rencontre, pas par les sites de porno en ligne ou...
Oui, par quelque chose de très très global, je pense, par une société qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté de soi, de l'autre, du couple, du désir. Globalement, en fait, je dis plutôt militante pour la visibilité asexuelle. Mmh. Donc vraiment, si on parle de combat, ça va plutôt être pour faire reconnaître la sexualité en tant que telle, pour répandre cette parole et donner le droit aux gens de se l'approprier. Après, à quoi est due cette hostilité que l'on vit? Je pense globalement, oui, à un non-droit d'exister, comme je le disais tout à l'heure, à quelque chose d'assez misérable du côté de l'opinion qu'on a de ceux qui ne couchent pas, qui ne veulent pas coucher ou qui ne peuvent pas coucher. Après, quant au porno, etc., dont on parlait, parce que c'est des sujets qui me passionnent vraiment et qui m'intéressent. Au-delà de la peur de la performance, moi, je pense aussi qu'il y a vraiment quelque chose qui... En fait, le porno est venu enseigner ce qu'est le sexe aux gens, et notamment à ma génération, parce que moi, j'ai grandi... nous, on est la génération qui a grandi avec le porno assez bas de gamme, qui reposait sur... une forme de violence, un petit peu. Et on s'est retrouvés à avoir des rapports, en fait, franchement, moyens. Parce que les gens avaient vraiment appris à coucher comme ça, et c'était comme ça qu'il fallait faire. Et donc, oui, forcément, s'il n'épanouit pas, les gens, peut-être, ont oublié ou ne savent pas qu'une sexualité, c'est aussi simplement s'emplir de l'odeur de l'autre, c'est chercher le contact du bout des doigts d'un morceau de peau qui serait plus doux d'un centimètre à l'autre. C'est vraiment... le désir, il se déploie de façon très différente et de façon infinie. Mais c'est comment je touche et je respire l'autre, comment je m'emplis de mon partenaire pendant quelques minutes.
On a un autre appel du côté de Paris cette fois-ci. C'est Patricia qui nous appelle. Bonjour Patricia.
Bonjour Clément.
Merci. Comment allez-vous? Très très bien. Alors vous êtes mariée, hein, c'est ça?
Comment?
Vous êtes mariée?
Non.
Ah, vous n'êtes pas mariée.
Pas du tout, les filles.
Vous êtes célibataire.
Voilà. Mais je vais parler de... Comment dirais-je? De l'espérance d'avant, quand j'étais mariée.
Ah, c'est ça. Donc vous êtes divorcée, en fait.
Voilà.
Ok.
J'entends vos intervenants dans l'ensemble, et les auditeurs, les auditrices, ils parlent que du sexe.
Et oui.
Dans le couple, il n'y a pas que du sexe.
Non, mais justement, on parlait du fait qu'il n'y avait pas... le sexe n'était pas forcément essentiel. On parlait aussi de la tendresse.
Pas du tout. Oui. Pas du tout. C'est l'admiration de l'autre.
Bien sûr.
C'est l'appréciation de l'autre. C'est la surprise. Il y a tout ça au quotidien pour l'image des parents vis-à-vis des enfants.
C'est exactement ce qu'on se disait, hein, Patricia. Et vous, là, aujourd'hui, vous vivez comment ? Maritalement, pas maritalement, libre, célibataire ?
Libre.
Libre, dit-elle.
Libre, libre, mais c'est toujours bien d'être à deux, mais il n'y a pas que le sexe. C'est vraiment au quotidien. C'est être attentif ou attentif au quotidien auprès de l'autre.
Ouais.
Et le sexe vient en dernier.
Ouais.
Vous voyez ?
Et libre, on peut être libre dans un couple.
Comment ?
Et on peut être libre dans un couple pour vous.
Oui, bien sûr, tout en sachant que l'autre est là.
C'est ça, ouais, bien compris. Bon, en tout cas, vous avez l'air plutôt heureuse, vous, Patricia.
Tout excès nuit. Vous voyez, il faut doser.
Il faut doser, c'est une question de dosage. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Patricia, du côté de Paris. Alors en même temps, pardon, on a aussi d'autres messages d'auditrices ou d'auditeurs qui ne sont pas tout à fait... Voilà, il y a Suzanne au Cameroun qui nous dit « Un couple ne peut pas être heureux sans sexe. Il faut aussi une régularité des rapports dans le couple car le dialogue n'est pas seulement verbal mais aussi érotique. Les hommes ont besoin de sexe pour se sentir bien et les femmes ont besoin de sentir bien pour s'adonner au sexe. » Je vous voyais réagir, Florentine de Noa Wang.
Je pense que c'est un drame de penser que les hommes ont besoin de sexe pour se sentir bien et que c'est ça qui précipite notre société dans beaucoup, beaucoup de douleurs et qui éloigne les hommes et les femmes de la sexualité ensemble. Je pense que les gens sont des êtres sexuels, les hommes comme les femmes, ou asexuels, qui n'y a pas de normes, qu'il n'y a pas de grandes règles, qu'il n'y a pas de grandes lois, sinon la loi du consentement, et que l'intelligence amoureuse, l'intelligence érotique dans un couple ou un non-couple d'ailleurs, c'est de trouver son rythme à soi, son intimité à soi, sa sexualité à soi, sortir de tous ces enseignements. Vous le disiez très bien qu'aujourd'hui, c'est le porno qui fait école et c'est ce qui éloigne les jeunes, notamment de la sexualité, vraiment, les jeunes et les moins jeunes, et qu'il y a du travail. Qu'il y a du travail. Et je connais des couples merveilleux qui n'ont pas fait l'amour pendant des grandes phases ou ne font plus l'amour. Et ils sont des couples incroyables. C'est vraiment... évidemment, la sexualité peut faire partie de la qualité de la relation, mais elle n'est pas...
Et sortir de cette notion de performance, ou comme on dit aussi dans l'imaginaire collectif, quelles que soient les générations, il y a une pression aussi qui pèse sur les hommes, qui doivent assurer aussi, et au-delà de l'influence du porno, Anna Mangeau.
Ouais, je pense. Et alors, encore une fois, quand on parle d'asexualité ou non, les hommes en fait, subissent effectivement une énorme pression d'un non-droit de ne pas vouloir, d'un non-droit de ne pas désirer, ou au contraire une pression d'être capable, notamment d'être dominant aussi, parce que dans les rapports, la pornographie, on critique beaucoup la pornographie, mais elle a aussi ses bons côtés, et je trouve que...
Ses bons côtés, c'est-à-dire...
Non, mais qu'on peut apprécier la pornographie, et ça peut être quelque chose que certains, qui plaît à certains, et je me fais pas... Je trouve pas mon mot, mais je suis pas pour la suppression de la pornographie, je préfère le préciser. Simplement qu'il faudrait avoir un peu plus de choix et des choses mieux écrites, je pense un peu plus qualitatives.
Mais là, ce que vous dites, c'est que vous parlez d'érotisme, vous parlez plus de pornographie.
Exactement. On peut avoir, je pense, notamment à des femmes comme Ovidie, des personnes qui écrivent et réalisent. Enfin, Ovidie, elle fait plus de porno, mais des femmes qui écrivent et qui réalisent des pornos.
Du point de vue de...
Oui, du point de vue de la femme, ou simplement des choses. On a Nikita Bellucci aussi. Enfin, voilà, des femmes qui écrivent des choses.
Ça, ce que je vous propose, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Tout simplement parce qu'on arrive à la fin de cette émission. En tout cas, merci pour cet entretien passionnant avec vous. Et puis voilà, se libérer aussi. Et je pense qu'il y a pas mal de messages qui ont été passés à ceux ou celles qui peuvent se sortir seules aussi dans leur moindre ou non désir, qui n'est pas obligatoire ni performatif. C'est ça. Merci beaucoup, Anna Mangeau, autrice du livre Asexuel, itinéraire intime et bouleversant d'une femme qui aime s'en faire l'amour aux éditions Larousse. Florentine Donois-Wang, il y a votre podcast, l'espace du couple et les livres, les clés de l'intelligence érotique et amoureuse chez Larousse. Dans quelques instants, on part dans les Alpes françaises, juste après la chanteuse sud-africaine Laura Ennis. Merci à vous.
Merci.
Laura avec Nice sur RFI et nous voici dans Grand Massif. C'est un domaine skiable situé en Haute-Savoie dans les Alpes françaises. Sur les 500 moniteurs du ski qui travaillent, figurez-vous qu'il n'y a qu'un seul moniteur noir. Il s'appelle Jean-Baptiste et forcément il ne passe pas inaperçu. Portrait signé Alice Nio.
On est parti mon grand, hein, on va essayer aujourd'hui, tu vas voir, on va essayer de faire la piste des grands. On va peut-être repartir un petit peu dans le jardin et puis dès que c'est bon, on va sur la piste des grands, on essaie de prendre le tire-fesse. Au moins ça. Okay, ça marche. On est parti. On lève bien les pieds, Sacha. On essaie de ne pas céder de maman. Hein, c'est mieux. Hein. Ou au pire, c'est moi qui t'aide. Comme ça, ça te change un peu. Hein. Allez, viens, mon grand.
Tout a commencé. Bah, déjà, j'ai été adopté à l'âge de 6 mois. Je suis arrivé en France vers 8-9 mois dans une famille blanche. Je suis originaire de Côte d'Ivoire, plus précisément à Bobo, Abidjan. J'ai grandi du coup dans la région centre, dans l'Eure-et-Loir. Ma mère a toujours été seule dans sa vie, elle n'a jamais eu vraiment de compagnon. Et ma mère a toujours voulu avoir un enfant. Donc elle a toujours eu cette idée d'adopter, elle a eu pas mal d'échecs parce qu'être mère célibataire, et vouloir adopter, c'est très dur. Mais avec sa persévérance, elle a réussi et Dieu merci, je suis là. Donc je suis fils unique.
Et donc vous avez grandi à Dreux et donc la montagne, la neige, le ski, dans tout ça, comment c'est arrivé?
Avec ma famille, on allait tout le temps au ski, au minimum deux fois par an. J'ai commencé à 2-3 ans. J'ai fait pas mal de petits boulots et je me suis retrouvé à l'UCPA. Et en fait, l'UCPA proposait énormément de formations autour du sport, dont moniteur de ski. Je me suis engagé dans la formation, j'avais 19.
Aujourd'hui, vous êtes donc le seul professeur de ski noir de tout le domaine skiable, de tout le Grand Massif.
Oui. Je peux même vous dire que je pense en Haute-Savoie, on n'est pas plus de 5. En fait, ça a commencé à poser un problème, vraiment, le fait que je sois noir, c'est quand j'ai commencé à porter une tenue de moniteur. Il faut se dire que là, tu as une feuille blanche et tu mets une tache noire. Bah, la seule chose que tu vas regarder, c'est quoi? La tache noire. D'où il vient? Qui c'est? Et c'est surtout ça, en fait. Je vais dans une queue de télésiège, les gens vont tourner leur tête, vont arrêter leur discussion, vont regarder, que ça soit en bien, en mal, en rigolade, les gens vont arrêter leur discussion pour regarder. Bah, c'est quand même pas notre sport à nous. On est quand même plus sur du sable, des choses comme ça, quoi. C'est ça, en fait, l'image qu'ils ont, les gens. Un noir ne peut pas être sur des skis. Ça les perturbe.
Okay, je te remonte. Je vous remonte comme hier. On reste calme, OK? Ça marche. Je mets mes bras là. Quand je pars, je me laisse un peu glisser. Et là, je commence à ouvrir tout doucement. Ça marche. Je fais ça. Et si j'ai plus trop de vitesse, hop, je resserre. Je reprends de la vitesse et je réouvre. Allez Sacha, on essaye.
En fait, ce qui a été dur à un moment donné, c'est que j'étais vite le noir. Je prends un exemple avec mes collègues. Aujourd'hui, ils m'appellent JB. Et ce, depuis 2 ans, 3 ans, même pas. Ça a commencé à s'atténuer il y a 3 ans et depuis 2 ans, mes collègues m'appellent JB. Mais régulièrement, c'était mon black, c'était le noir, c'était... Ah bah vous voyez, ça c'est notre black. Un exemple. Mais il n'est plus là, ce collègue-là. Mais pour vous donner un peu l'idée de ce qui pouvait sortir, j'ai eu le droit à... ils engagent des noirs maintenant à l'école de ski. Il faut se rendre compte qu'à la longue, ça peut être épuisant. Il suffit que tu sois mal luné. Tu n'as pas envie d'entendre ce genre de choses. En fait, j'ai un prénom, je suis comme toi. Dis-moi juste JB, Jean-Baptiste, je m'en fous. Mais arrête, quoi. C'est bon. C'était drôle la première année, mais continue pas, quoi. Du coup, voilà, c'est vrai que ça, des fois, ça a été dur. 80% du temps, c'était pas méchant. Il y en a certains, c'était pour la fierté, d'autres, c'était peut-être pour rigoler, enfin bref. Mais c'est pas là le bas blesse, c'est que c'est le fait que ça soit tout le temps pour moi.
Bravo! Attendez-moi avant que ça plonge.
Ah bah tu viens d'où? Mais comment ça se fait? Mais machin. C'était que ça. Des fois, c'était des questions, des fois, c'était des blagues, des fois, c'était des surnoms. Et. Ouais, juste laissez-moi tranquille. Des fois, tu rentres chez toi, t'as envie de tout casser. Parce qu'en fait, t'as encaissé toute la journée, toute la semaine, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il a fallu que des fois, je ferme les poings, que je me taise. Et ça, ça a été dur parce que à l'époque, j'aurais pas été capable de le dire, gentiment. Vu que j'avais déjà encaissé depuis un moment. Je pense que j'aurais explosé et au final, j'aurais peut-être donné raison. Et avec le temps, ça s'est estompé parce que... il a fallu que je fasse mes preuves. Je les ai faites. Les gens aussi ont vu que j'étais quelqu'un de normal, en fait, en dehors de cette couleur de peau. Mais j'ai montré qui je suis et aujourd'hui, je suis bien, vraiment. Il n'y a plus de, entre guillemets, honte d'être moniteur. Je pense que ça continue, hein, mais je ne fais plus attention.
Tonton Bassa, voilà, laisse-toi glisser. OK. Maintenant que tu as un peu de vitesse, ouvre ton bassin. Laisse faire. Tu as le temps. Voilà, déjà mieux.
Voilà, il s'appelle Jean-Baptiste, il est moniteur de ski avant d'être noir. Un portrait signé Alice Milot. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. On se retrouve demain à la même heure et on parlera des secrets de famille et des fantômes intergénérationnels. Vous savez, tous ces événements qui peuvent se reproduire, qui se répètent dans les générations suivantes. Si vous êtes d'ailleurs concerné par le sujet, on attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Belle journée à l'écoute de RFI.
Huit milliards de voisins, c'est fini.